VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Bamako, 17h à Libreville, bienvenue à notre journal. Au Burkina Faso, des hommes lourdement armés ont attaqué tôt ce vendredi les positions de l'armée burkinabé dans le nord frontalier avec le Mali. Le bilan fait état de 12 militaires burkinabés tués. Plus de détails avec notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Ouanogo.
Une fois de plus, le nord Burkina a été frappé par une attaque terroriste, a révélé le président du Faso, Roch Marc Christian Kabore.
Aujourd'hui, 16 décembre 2016, aux environs de 5h30, dans la ville de Nassoubou, située dans la commune de Djibo, à proximité de la frontière avec le Mali, un détachement du groupement des forces antiterroristes de notre armée a subi une attaque meurtrière qui a coûté la vie à 12 de nos valeureux soldats et fait des blessés. Par la même occasion, des véhicules et des munitions ont été détruits et des bâtiments incendiés.
Cette énième attaque meurtrière rappelle à souhait que la lutte contre la nébuleuse terroriste est sans répit et nécessite une conjugaison et une synergie d'action de tous les Burkinabés. Et selon les mots du président du Faso, jamais dans l'histoire, le vaillant peuple burkinabé n'a courbé les chines devant ses ennemis. La génération actuelle ne trahira pas son rôle historique. Zoumana Ouanogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Côte d'Ivoire, quelques 6 200 000 Ivoiriens sont attendus dimanche aux urnes pour les élections législatives qui devraient conduire à une forte majorité des partisans du président Alassane Ouattara. La campagne électorale débutée samedi dernier s'achève aujourd'hui. Quelques 30 000 membres des forces de sécurité seront déployés pour le scrutin. La coalition présidentielle, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, vise la majorité absolue à l'Assemblée, composée de 255 députés, alors qu'elle doit faire face à des frondeurs dans son propre camp qui participent au scrutin sous l'étiquette d'indépendant. Toujours en Côte d'Ivoire, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a mis fin au monopole de plus de 50 ans de la télévision publique. Elle a attribué 4 licences de télévision privée commerciale pour libéraliser le secteur. Ce sont des proches du président Alassane Ouattara qui en sont les principaux bénéficiaires, nous dit Toussaint Alain, consultant ivoirien en communication politique.
Il y avait plusieurs concurrents, je crois au moins une quinzaine, mais la plupart de ces concurrents ont été récalés, pas seulement par les conditions qui étaient posées, parce que l'appel d'offres exigeait de ces candidats de déposer une caution d'1 milliard de francs CFA, c'est-à-dire environ 1,5 million d'euros. Je ne pense pas que cela soit difficile forcément pour des investisseurs de trouver ces sommes. Je pense que l'élément déterminant ici a été le facteur politique. Le gouvernement n'a pas envie d'autoriser des chaînes de télévision qui pourraient échapper à son contrôle.
Le consultant ivoirien Toussaint Alain. En RDC, incertitude ce vendredi à Kinshasa sur les chances de conclusion dans la journée d'un accord politique permettant de trouver une sortie de crise dans le pays avant la fin du mandat du président Joseph Kabila le 20 décembre. Les négociations qui se sont ouvertes le 8 décembre sous l'égide de la CENCO, la conférence des évêques catholiques du Congo, sont censées s'achever aujourd'hui selon le calendrier défini par les prélats. Objectif du dialogue, trouver un compromis sur une période de transition politique devant mener à la tenue de la présidentielle qui devait avoir lieu cette année mais n'a pas été organisée. Jeudi soir, selon des participants aux négociations, des progrès avaient été enregistrés sur la question de la date et de l'organisation de la présidentielle, mais l'impasse persiste sur l'avenir politique du président Kabila et l'étendue de ses pouvoirs pendant la transition. Et toujours concernant la politique en RDC, plusieurs membres du Congrès des États-Unis demandent au président Kabila d'annoncer publiquement qu'il ne se présentera pas pour un autre mandat. Ces parlementaires américains l'exhortent aussi à négocier de bonne foi et de manière inclusive une date pour la tenue des élections en 2017. Eddie Sango.
5 membres de la Chambre des représentants ont signé la lettre adressée au président Joseph Kabila pour lui demander d'annoncer publiquement qu'il ne va pas briguer un autre mandat ni modifier ou amender la Constitution pour rester plus de 2 mandats. Ils l'appellent à mettre sur pied un gouvernement inclusif qui gérera le pays jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Selon ces députés américains, ces gouvernements de transition devraient être négociés avec toutes les forces de l'opposition dans le respect de la Constitution, des droits fondamentaux, de la liberté d'expression et des rassemblements des Congolais. Les élus américains rappellent que les recours à la force contre les manifestations pacifiques est contraire aux valeurs et à la constitution de la RDC. Ils souhaitent qu'un accord soit trouvé avant le 19 décembre, qui marque la fin du dernier mandat de M. Kabila.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Burundi, la police accuse la Belgique, ancienne puissance coloniale, d'organiser des Burundais et des étrangers en vue de créer des troubles dans le pays. Les services de renseignement burundais, qui ont perquisitionné hier des appartements de ressortissants belges et européens, auraient des preuves, selon la police. La tension monte entre Bruxelles et Bujumbura, le Burundi accusant notamment la Belgique d'abriter ceux qui ont voulu faire le coup d'État de mai 2015. Les détails avec notre correspondant de la capitale burundaise, Christophe Nkurunziza.
Quartier Kabundo, au centre-ouest de la capitale Bujumbura, ce jeudi matin, les maisons occupées par des ressortissants belges, européens, fonctionnaires et diplomates internationaux ont été perquisitionnées par des agents des services de renseignement. Le porte-parole de la police, Pierre Mourikiye, qui a confirmé l'information, affirme que des citoyens sénégalais, guinéens, rwandais et des burundaises qui habitent près de ces appartements avaient été dernièrement regroupés en vue de perturber la sécurité au Burundi. Ces maisons appartiennent aux diplomates et à leurs staff de sécurité à une avenue communément appelée Avenue du Large. Pour le porte-parole de la police, seules les maisons des personnes qui n'ont pas d'immunité diplomatique ont été fouillées, mais qu'en cas de flagrance, elles peuvent l'être. Les sources de l'ambassade de Belgique indiquent que les policiers qui ont fait la fouille perquisition avaient un mandat à cet effet, mais qu'aucune maison des diplomates n'a été fouillée. Les relations entre le Burundi et la Belgique se sont détériorées au lendemain de la confirmation du président burundais pour un troisième mandat. La Belgique appelle depuis lors en dialogue inclusif, Bujumbura ne voulant pas s'asseoir avec ceux qui ont voulu faire le coup d'État en mai de l'année dernière. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
RCA, la violence s'accroît dans le pays malgré la mise en place de nouveaux gouvernements après l'élection de Faustin Archange Touadéra à la présidence début 2016. C'est ce qu'estime la MINUSCA, la force onusienne de maintien de la paix sur place, dans un rapport au Conseil de sécurité des Nations Unies. Selon le document, la nouvelle administration entrée en fonction en mars n'a qu'un contrôle limité en dehors de la capitale Bangui et n'a pas réussi à convaincre les dizaines de groupes armés présents dans tout le pays à déposer les armes. Au Soudan du Sud, l'opposition sud-soudanaise a salué aujourd'hui l'appel du président Salva Kiir à un dialogue national visant à rétablir la paix 3 ans après le début de la guerre civile. Mais les opposants sont contre le fait que ce dialogue soit mené par le chef de l'État, a déclaré dans un communiqué Nyari Woman, porte-parole de l'opposition. Mercredi, le président Kiir avait lancé un dialogue national ouvert à tous. Il avait promis de garantir la sécurité de tous les acteurs qui y participeraient, y compris ceux qui sont actuellement hors du pays et qui sont contre son gouvernement. Le discours du président, au cours duquel il a notamment demandé à ses concitoyens de le pardonner pour toutes les erreurs qu'il aurait pu avoir commises, intervient alors que les violences s'intensifient ces dernières semaines dans le pays. Conflit en Syrie maintenant. Le régime du président Bachar al-Assad a suspendu ce vendredi l'évacuation de civils et d'insurgés de la ville ravagée d'Alep, faisant craindre une reprise des combats pour la conquête de la dernière poche rebelle où des milliers d'habitants restent pris au piège. Plus de détails avec Tatiana Mosso.
Lancée jeudi, cette opération d'évacuation devait durer plusieurs jours et permettre au régime de proclamer la reprise totale de la deuxième ville de Syrie et d'enregistrer sa plus importante victoire dans le conflit qui dure depuis 2011. La Syrie, alliée du régime, a annoncé que l'évacuation des rebelles et de leurs familles était terminée et que les troupes syriennes étaient en passe de liquider les dernières poches de résistance à Alep. Mais selon l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, il reste environ 40 000 civils dans le réduit rebelle et entre 1 500 et 5 000 combattants et leurs familles. Depuis jeudi, environ 8 500 personnes, dont 3 000 combattants, ont été évacuées vers des territoires sous contrôle rebelle, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Quelques 8 000 selon les médias officiels syriens. À Alep, un convoi de plus de 800 personnes évacuées a ainsi été forcé de retourner en zone rebelle par des miliciens chiites pro-régime.
Ce vendredi, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir pour parler d'Alep, alors que les États-Unis avertissent que cette cité risque de devenir une autre Srebrenica, ville de Bosnie, où fut commis en 1995 le pire massacre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.